Et c'est bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Hein? Donc, nous allons passer un moment ensemble dans l'étude de la prédication de la parole de Dieu. Que le Seigneur d'ailleurs nous conduire selon son esprit. Et ouvrons nos Bibles dans Ésaïe. Ésaïe 54, le verset 10. Ésaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignait point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Parole du Seigneur. Le titre de notre message ce matin, c'est l'assurance du bonheur éternel. L'assurance du bonheur éternel. L'homme est toujours à la recherche du bonheur. C'est un état stable et durable du bien-être. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a énuméré 9 béatitudes définies comme bonheur parfait. Et dans l'Apocalypse, Jean comptait 7 et j'en passe. Dans les psaumes, il y en a pas mal. Et dans notre texte, Dieu a fait 2 promesses, une promesse d'amour et une promesse de paix par sa compassion. Et cette promesse d'amour, il n'y a que Dieu qui puisse faire de telles promesses. Dans sa parole, il a dit que rien ne peut éteindre cette promesse d'amour. Le séisme, les désastres, les tremblements de terre, les inondations, les incendies qui bouleversent la surface du globe sont au quotidien. La topographie terrestre peut changer, mais l'Éternel reste et demeure éternellement, parce qu'il est Dieu. L'Éternel avait dit au pays de Magog que toutes les montagnes peuvent s'effondrer comme de la cire. Et sa promesse pour nous reste et demeure. Regardez dans Ézéchiel 38, dans Ézéchiel 38, dans le verset 20, il dit, les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, Les parois des rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre. Ça veut dire même quand toutes ces choses arrivent, en ce qui a trait à la promesse que Dieu nous a faite, c'est rassuré. Et pour enlever tout un scepticisme, Dieu a assuré cette promesse parce qu'il est Dieu. Tout ce qu'il dit, il le fera. Tout ce qu'il a promis, il l'accomplira. Le réchauffement climatique peut tout dévaster. Mais les promesses de Dieu s'accompliront inévitablement parce qu'il est fidèle. Et Jérémie avait fait l'expérience de la fidélité de Dieu. Malgré ses souffrances, ses calamités, il dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Et après, il dit « Oh, que ta fidélité est grande. » Cette fidélité est encore là. Et cette fidélité se manifeste encore pour nous, parce que Dieu, il est fidèle. Paul dit à l'église d'Éphèse, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Selon Éphésiens, chapitre 5, verset 16. « Les jours sont mauvais, certainement au point de vue social. Ils sont mauvais au point de vue politique. Et les jours sont mauvais au point de vue économique. Nous n'avons pas besoin de détails parce que nous sommes tous des témoins. Nous écoutons, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde. Et ça nous concerne tous puisque nous sommes encore sur terre. En dépit des bouleversements dans le monde, Dieu tient sa promesse comme un engagement pour l'avenir. Et toutes les promesses spirituelles de Dieu sont accomplies par la venue de Jésus-Christ. Et c'est lui qui avait répété, tout est accompli. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que beaucoup attendent encore la venue du Messie. Mais Christ, il est le Messie qui était promis et le Messie qui est venu pour nous délivrer de l'esclavage du péché. La venue du prince de paix, c'est Jésus. Il est le prince de la paix, selon ce que Isaïe nous avait dit. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Et non seulement le prince de la paix, il y a aussi la venue du Saint-Esprit qui a été promis. Dans Actes chapitre 1, verset 8, nous lisons que le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le prince de la paix, la venue du Saint-Esprit et la vie éternelle que nous avons en Christ, témoigne la fidélité de Dieu. Et cette fidélité est une démonstration de son amour pour nous. L'amour a une valeur intrinsèque dans nos vies. Si on n'a pas d'amour dans nos cœurs, nous ne pouvons pas aimer. nos prochains. Si on n'a pas d'amour dans nos cœurs, on ne peut pas aimer rien. Parce que tout ce qu'on aime, c'est à partir de l'amour, et cet amour se manifeste dans nos cœurs. L'amour vient de Dieu, parce que Dieu, il est amour. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ne peut pas aimer son prochain. Parce que sinon, si nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, comment pouvons-nous aimer les autres? L'amour se définit par des actes. C'est facile de dire « je t'aime ». C'est facile de dire « j'aime ça », mais il faut des actes pour prouver cet amour et pour le définir réellement. Et c'est Dieu même qui avait donné l'alerte par sa parole dans Jean 3, 16. Il dit « Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Qui ce matin peut avoir un Fils unique, par amour, peut donner ce Fils en sacrifice pour des impies, pour des ennemis? Il n'y a que Dieu qui puisse le faire, puisqu'il est amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu. Paul dit à l'église de Rome, Dieu prouve son amour parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort à notre place pour nos péchés. Aujourd'hui, surtout dans le domaine scientifique, on cherche toujours la démonstration, l'approbation. Il faut prouver tout ce qu'on dit. Mais là, Dieu a prouvé son amour lorsqu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour nous enlever tous les péchés, selon Romains chapitre 5, le verset 8. Dans 1 Jean chapitre 4, nous lisons, Jean est appelé les prophètes, l'apôtre de l'amour. Dans Jean chapitre 4, le verset 16, il dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Celui qui a connu l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est des déclarations convaincantes que Jean avait faite concernant l'amour de Dieu. La vie serait belle s'il y avait de l'amour dans le monde. Parce que tous les crimes que nous constatons dans le monde, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. La vie serait belle dans les familles s'il y avait de l'amour. Dans les couples, entre amis et dans l'église où les enfants de Dieu sont réunis ensemble pour le louer, le glorifier et l'adorer. Quand nous sommes réunis ici, Nous n'avons qu'un but, de nous réchauffer ensemble, hein, de partager ensemble notre amour fraternel, notre communion fraternelle, mais une façon aussi pour exalter Dieu, parce que c'est lui seul qui mérite l'exaltation, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Dans 1 Corinthiens 13, c'est un passage et d'amour. Dans les versets 1er et 2, nous lisons que Paul dit à l'église de Corinthe, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Est-ce que nous avons de l'amour dans nos cœurs ce matin? Si nous n'avons pas d'amour, nous ne sommes rien. Parce que tout ce que nous faisons, c'est par l'amour de Dieu. Cet amour qui habite en nous. Jésus avait montré cet amour à la croix. Et il dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Et il continue, il dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ça veut dire, si nous n'avons pas d'amour les uns pour les autres, eh bien, nous ne pouvons pas être aussi les disciples de Jésus-Christ. C'est si vous avez, selon Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Et cet amour fraternel nous procure la paix. Hein? Cet amour fraternel nous procure la paix. Parce que c'est en lui que nous pouvons trouver la paix. Et comme promesse, Dieu nous a fait cette promesse d'alliance de paix. Et il dit, mon alliance de paix ne chancellera point. Tout accord entre deux ou plusieurs personnes constitue une alliance. Dieu faisait à l'homme une promesse généreuse qui ne s'accomplira que si l'homme remplit les conditions requises. Dieu avait promis à l'homme la vie éternelle et une protection soutenue s'il obéit à ses commandements. Les bénédictions de Dieu sont disponibles, mais il faut remplir les conditions. Dans Jean 3, 36, passage que chacun de nous récite souvent, dans Jean chapitre 3, le verset 36, il dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Cette promesse de vie éternelle est en Christ et en Christ seul. Parce que c'est lui qui donne la vie éternelle. L'Éternel avait fait une alliance avec Noé, une alliance avec Abraham, une alliance avec David. Et l'alliance de notre David, c'est l'alliance de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Hein. Et une alliance avec le peuple Israël. Au peuple Israël, pour lui certifier qu'il serait son Dieu et ferait de lui une grande nation à condition qu'il obéit à ses commandements. Et nous savons l'attitude de ce peuple, un peuple dur, hein, au cou raide, un peuple rebelle. Et le sabbat était le signe de cette alliance. Ce qu'il nous reste à savoir, c'est que toutes les bénédictions de Dieu sont conditionnées, mes frères et sœurs. Les bénédictions de Dieu sont disponibles, mais il faut remplir les conditions pour en bénéficier. Dans Deutéronome 7, verset 14, il est écrit, si mon peuple, il y a le si, hein, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. C'est des conditions. Donc si le peuple ne répond pas à ces exigences, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas d'exaucement. Et dans Jean chapitre 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Fort souvent, nous prions en vain, parce que nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu ne demeure pas non plus en nous. Ce peuple Israël était un peuple désobéissant à la parole de Dieu. Pour le prouver, il a dressé hein, le veau d'or pour adorer comme Dieu. Un petit dé. Hein. Il vivait dans l'idolâtrie et dans le faire semblant. Isaïe l'a dit dans Isaïe 29, verset 13. Et nous l'avons aussi dans le Nouveau Testament, où il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Dans Isaïe chapitre 29, verset 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Dans l'Église d'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux semblants parmi nous, mes frères, mes sœurs. Ces faux semblants qui ne sont pas régénérés. Pour avoir une vie nouvelle et une vie transformée. Si on n'est pas régénéré, on ne peut pas avoir une vie nouvelle. On ne peut pas avoir une vie transformée. Et cette transformation, nous avons les papillons. Quand au printemps, il y a beaucoup de papillons hein, qui annoncent le printemps. Et ces papillons, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Des chenilles. Est-ce que nous sommes transformés comme ça, comme les papillons qui se transforment en chenilles? Parce que quand Dieu habite en nous, quand nous avons et cette régénération en Jésus-Christ, nous sommes transformés. Et Paul va plus loin pour dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, et les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est seulement par le baptême du Saint-Esprit que nous pouvons avoir cette transformation. La nouvelle alliance est fondée sur la foi en Jésus-Christ. L'Esprit en est le dispensateur et l'intendant. Elle est destinée à toutes les nations. Christ est le médiateur de cette alliance. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est l'étude que nous sommes en train de faire avec Frère David le mercredi soir. En Christ habitent tous les trésors de la sagesse et de la science. Paul dit aux Romains, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien. Mais est-ce qu'ils ont l'esprit de Christ en eux? La loi et ses caractéristiques étaient l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Dans Colossiens 2, versets 8 et verset 9, et dans les versets 16 et 17 que nous pouvons lire, Colossiens 2, verset 16 et verset 17, il dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Tout ce dont nous avons besoin, c'est la manifestation de notre foi en Jésus-Christ. Nous avons besoin du salut, il faut croire en Jésus-Christ. Nous avons besoin de délivrance, il faut croire en Jésus-Christ. Et la nouvelle alliance est reposée sur le sacrifice parfait de Christ. Il est scellé par son sang qui nous a lavés et nous purifiés de tout péché. Et il faut souligner qu'aucune alliance n'a été signée avec l'Église. L'Église a bénéficié de la nouvelle alliance en Christ et en Christ seul. C'est une alliance de paix acquise par l'œuvre de Jésus à la croix. Isaïe l'a dit dans Isaïe 53, le verset 5, il était blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est grâce au sacrifice de Jésus à la croix que nous sommes là ce matin. Nous pouvons parler de notre salut éternel que personne ne peut nous ravir. La mort de Jésus enlève le châtiment du péché et nous procure la paix. Nous avons la paix du cœur. La paix de Dieu n'est pas un produit artificiel et passager, d'un effort humain. Elle est le fruit de l'esprit. Oui, la paix de Dieu, c'est le fruit de l'esprit, ce que Paul a écrit dans Galates 5, le verset 22. Les hommes ont signé beaucoup de traités de paix dans le monde qui ne sont pas respectés. Sur la table, ils font la paix, et sous la table, c'est la guerre qui ravage le monde. Sur la table, ils signent, ils contractent le désarmement, et pourtant, sous la table, il y a la distribution des armes. Mais Dieu, sa paix, c'est pas comme ça. Dieu nous donne la paix. La paix que l'homme ne peut pas donner parce qu'il est le prince de la paix. La paix est une démonstration de plénitude, de satisfaction, de repos. La paix est une démonstration de tranquillité. Hein? David, il dit, je me couche et je m'endors. Comment? En paix, car toi seul, ô Éternel, hein? Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ça veut dire, lorsque nous avons la paix de Dieu avec nous, nous sommes en sécurité. Quelles que soient les âmes meurtrières que nous pouvions posséder, nous ne sommes pas en paix. Parce que les âmes ne donnent pas la paix, mes frères et sœurs. Si les âmes donnaient de la paix, le monde serait en paix. Parce que les types d'âmes qu'il y a aujourd'hui, que l'homme possède aujourd'hui, c'est dans un clin d'œil. C'est comme une épée d'Amoclès sur nos têtes. Dès qu'on presse sur un bouton, tout le monde serait détruit. Hein? Et si Lavoisier pensait que la chimie nous serait mise comme ça, il ne serait pas venu avec la chimie. Ces âmes qui détruisent l'humanité. Tout croyant justifié par la foi à la paix de Dieu. Et cette paix qui surpasse toute intelligence des hommes peut garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi en Jésus-Christ? Parce que Christ, il est notre paix. C'est lui qui nous donne la paix du cœur. Dans Jean chapitre 14, le verset 27, il a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne s'étouble point et ne s'alarme point. Voilà pourquoi nous sommes en sécurité ce matin, parce que nous avons la paix de Dieu dans nos cœurs. Nous avons la certitude, si nous sortons dans la rue, rien ne peut nous arriver si ce n'est la volonté de Dieu. Rien. Cette sécurité que l'homme ne peut donner. Les promesses de Dieu sont certaines parce qu'il est souverain. Sa souveraineté ne peut être comparée. Son autorité transcende toute race, tout pouvoir, toute culture et toute connaissance. Voilà pourquoi Paul a dit, c'est en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. À Jérémie, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Et notre espérance, c'est quoi? C'est le retour glorieux de Jésus. C'est le retour en gloire de Jésus. Pour nous sortir de ce monde en perdition. Et nous attendons son retour comme espérance ferme. Frères et sœurs, réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Car rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Paul l'a dit dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, avec des questions, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dans le bonheur éternel, Dieu essuiera toute l'âme dans nos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. La paix et la joie seront notre partage. Nous vivons dans la paix, nous vivons dans la joie tous les jours de nos vies avec notre Seigneur. Les promesses de Dieu arriveront quand même. Comme on dit, qu'il pleut, qu'il tonne, ses promesses seront établies. Parce que Dieu, il est fidèle, il est souverain. La promesse d'amour et la promesse de paix, c'est pour nous ce matin, pour chacun de nous qui fait déjà l'expérience avec Dieu. Si vous êtes là ce matin, vous n'avez pas encore fait la paix avec Christ, eh bien, c'est maintenant qu'il faut le faire, puisque demain serait déjà trop tard. L'amour de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, que le Seigneur nous bénisse.